Bonsoir, ça marche? Oui, c'est bon. Ben écoutez, moi aussi, je suis obligé j'ai envie de commencer par des remerciements parce que vraiment, ça a été une très belle expérience l'organisation de ce séminaire. C'est pas un colloque pour nous, de ces rencontres qui vont venir des rencontres annuelles, comme vous l'avez compris, et c'est vraiment le résultat d'une étroite collaboration entre moi-même, mes collaborateurs et avec Philippe Dagen. Donc vraiment, c'était une très belle expérience et je tiens vraiment particulièrement à remercier d'une part Philippe Dagen qui est un interlocuteur plus que précieux dans ce domaine, mais aussi Anouk Bassier qui connaît d'autres horizons par rapport à mes compétences et donc nous avons la chance de nous compléter, Émilie Maume, Pascal Chandel. Donc vraiment, tout le monde a apporté sa contribution à cette réussite. Donc après la demi-journée consacrée à l'art du XXe siècle ou à l'art contemporain, c'est l'après-midi consacré à Caravaggio. Comme vous l'avez compris, nous allons choisir, même l'année prochaine, 4, 5, 6, 7 expositions maximum sur lesquelles nous allons dire quelque chose. Et évidemment, l'exposition Caravage, pas uniquement Caravage, Ombre et Lumière, Montpellier-Toulouse, était quand même une expérience extrêmement intéressante, le résultat d'une collaboration non seulement entre deux musées de région, comme on dit maintenant, mais disons deux musées de province, même si c'est des grandes capitales, et aussi avec le résultat d'une collaboration avec les musées américains à travers le système FREM. Mais tout cela, Michel Hiller et Axel Emery vont nous parler tout à l'heure. Donc c'est pour ça que c'est cet après-midi, les deux expositions elles seront décortiquées dans tous leurs aspects. Caravage est l'un des artistes, peut-être aujourd'hui c'est l'artiste le plus célèbre en Italie avec ou après Léonard de Vinci. Je dirais même qu'il y a eu presque trop d'expositions sur Caravage dans les dernières années, mais nous verrons que l'exposition de Montpellier-Toulouse, c'est autre chose. Et surtout, monographie ou pas monographie, c'est vrai que Caravaggio a fait l'objet de plusieurs expositions monographiques, même si à ces expositions monographiques ont greffé par-ci par-là des sections, et les expositions de Caravage aujourd'hui vont de l'Australie au fin fond du Texas. Donc imaginez mettre Caravage dans le contexte texan ou australien est quand même assez difficile et c'est un choix dangereux. Je vais vous simplement parler. Je dirais un peu aussi d'histoire personnelle, parce que je ne suis pas un spécialiste de Caravage, même si je déteste ce mot de spécialiste. On peut s'intéresser à un artiste, même si on n'est pas spécialiste. Et d'ailleurs, les jeunes conservateurs qui demain auront les directions de certains nombres de musées, ils seront obligés de s'occuper d'artistes, même desquels ils ne sont pas spécialistes. Donc, dans l'intitulé, j'avais choisi la date 1951 parce que c'est une année exceptionnelle pour l'histoire, non seulement des expositions. Aujourd'hui, c'est vrai, est devenue une discipline à part entière, celle consacrée aux histoires des expositions. Souvent, je regrette beaucoup que les personnes qui s'occupent d'histoire des expositions n'ont jamais mis les mains dans le cambouis de l'organisation d'une exposition. Donc, ça reste souvent un discours extrêmement théorique et les conservateurs doivent être très attentifs à cet aspect. En revanche, revenons à Milan 1951. Je vous dis la première monographie vraiment importante consacrée à l'artiste. Et il est vraiment intéressant, c'est que Milan 1951, l'Italie sortait à peine de la Deuxième Guerre mondiale. Voici les images de Milan après la guerre. Nous sommes uniquement à quelques années après la fin de la guerre mondiale. Le pays était vraiment en pleine reconstruction, même la Scala, Santa Maria delle Grazie, les monuments majeurs de la ville avaient été touchés. Il y avait partout en Italie, du nord au sud, les séquelles de la guerre. La Nouvelle République était née par référendum le 2 juin 1946, donc c'était une très jeune république. Et en 1951, nous avions le troisième président de la République, Luigi Einaudi, et c'est sous le patronage de Luigi Einaudi, président de la République, que du mois d'avril au mois de juin de 1951, au Palais Royal de Milan, donc cette institution qui est une coquille vide face à la cathédrale, face au célèbre Duomo, s'ouvrait sous le patronat donc, du président, la première exposition, je dirais moderne, consacrée à Caravage. Le comité d'honneur était vraiment impressionnant. Évidemment, le président du Conseil des ministres, Alcide De Gasperi, un personnage très célèbre, puis il y avait déjà Giulio Andreotti, qui est toujours vivant, sous-secrétaire à l'époque du président du Conseil, et puis il y avait des ministres français, allemands, la liste des ambassadeurs n'en finissait plus. Et je vais simplement vous mentionner les membres. Il y avait une commission pour le choix des œuvres, donc vraiment pour donner une sorte d'assise scientifique à ces choix. Dans la commission de choix des œuvres, il y avait Giulio Carlo Argan, Arslan, Paolo D'Ancona, Roberto Longhi, Matteo Marangoni, Rodolfo Pallucchini, Mario Salmi e Leonello Venturi. Pour les historiens de l'art, vous le savez très bien, ils sont tous devenus, où ils étaient déjà en partie, les protagonistes de la vie culturelle et artistique de l'Italie après-guerre. Le commissaire de l'exposition était Roberto Longhi, désormais au sommet de sa carrière, qui avait consacré depuis sa jeunesse des études pionnières à Caravage et aux peintres caravagesques. L'expo avait pour but d'honorer, ainsi était écrit dans le propos du catalogue, le but était celui d'honorer le grand peintre lombard, donc pourquoi Milan, évidemment, parce que Caravaggio est un peintre lombard, prouver son rayonnement européen et réunir la quasi-totalité des œuvres connues à l'époque et attribuées à l'époque au grand peintre. Le défi était titanesque, mais à la hauteur du grand peintre lombard. La manifestation était accompagnée d'un catalogue discret, vous voyez, petit, de 125 pages par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, accompagné de 131 illustrations et simplement d'une introduction, mais de quelques pages, signée par Roberto Longhi. Et il s'agit de cette introduction de Longhi, l'un des textes fondateurs de la moderne historiographie sur le peintre. Longhi voulut d'emblée présenter un Caravage libéré de tout mythe historiographique, un artiste de son temps, né et formé à Lombardie, entre Brescia et Bergamo, et qui avait regardé les grands peintres de la région, Lotto, qui avait travaillé évidemment, Moretto, Moroni et Savoldo. C'était, comme je vous disais avant, l'aboutissement d'une série de travaux que le grand historien de l'art avait consacré à l'un des plus grands peintres italiens entre 16e et 17e siècle. La formation lombarde de Caravage était, aux yeux de Roberto Longhi, un bagage culturel et artistique dont le peintre se souviendra tout au long de sa vie. Malheureusement, on parlait aussi aujourd'hui des difficultés quand on travaille sur ces expositions, on n'a pratiquement pas d'archives sur ces expositions et on peut les reconstruire sur la base du catalogue, mais évidemment, on n'a quasi rien au niveau des... bien sûr, on a des articles de la presse, mais les plans, la disposition, on peut imaginer, en suivant la liste des œuvres et des notices qui sont extrêmement courtes, donc des courtes notices accompagnées les œuvres. Donc, Longhi a quand même réussi, et c'est la première et unique fois, à réunir 44 œuvres de l'artiste. Évidemment, les œuvres de jeunesse étaient faciles et sont celles aussi qui circulent davantage partout dans le monde entier, donc ces chefs-d'œuvre de Rome, de Florence, etc. Également les œuvres de la Galleria Pamphili, ce qui était exceptionnel à l'époque, les deux versions de la Dies Bonaventure. Ce qui était exceptionnel à l'époque, c'est celle d'avoir réuni à Milan et d'avoir eu des prêts, évidemment. Le président de la République était un joueur important, les ambassades, on était juste à la fin de la Première Guerre mondiale, donc il y avait les trois toiles de Saint-Louis des Français, des œuvres provenant aussi des musées américains, comme le Saint-François, l'Exal Saint-François ou le Narcisse de la Galleria d'Arte Antica. Il y avait évidemment des chefs-d'œuvre, la Sainte-Catherine qui à l'époque était à Lugano, dans les collections Thyssen, aujourd'hui à Madrid, l'Amour vainqueur de Berlin, mais aussi les toiles. Donc il y avait vraiment non seulement les œuvres des musées, mais aussi les grandes toiles des églises de Rome, chose aujourd'hui impossible. Donc on peut plus songer à ce genre d'exposition. Et évidemment, les tableaux des églises comme la Vierge des Pèlerins de Saint-Augustin, mais aussi la Vierge, la Sainte-Anne, la Vierge et l'Enfant de la Galerie Borghese, donc des tableaux d'hôtels provenant de différentes institutions, toujours les musées de Rome évidemment, mais aussi Naples. Et là, les sept œuvres de miséricorde et la flagellation, ces deux toiles à l'époque étaient les deux dans leur lieu d'origine, c'est-à-dire Piemonte la Misericordia et San Domenico Maggiore. Depuis, le Christ, la flagellation est conservée au musée de Capodimonte. Donc vous vous rendez compte, une exposition gigantesque avec des chefs-d'œuvre et surtout avec cette volonté, le comité garant de l'authenticité des œuvres. Donc effectivement, toutes les œuvres que je vous ai montrées, encore aujourd'hui, font l'unanimité. Et aussi, ce qui était émouvant, hein, sauf Narcisse, évidemment, mais Narcisse, il continue. Et d'ailleurs, l'année dernière, il était l'œuvre au crible ici à la Galerie Colbert. Narcisse continue à être. Mais disons, il y avait vraiment une volonté de montrer le Caravage sûr et certain. Et surtout aussi l'effort. Regardez, de Sicile, ces tableaux très abîmés, comme l'enterrement de Sainte-Lucie de Syracuse, les deux toiles du musée de Messine, mais aussi. Ce tableau, disparu depuis les années 70, je crois 76, a disparu, qui était dans l'oratoire San Lorenzo à Palerme. Donc évidemment, il n'y avait pas la décollation du Baptiste de Malte, mais sinon, et pas la mort de la Vierge du Louvre, mais sinon, vraiment, le Caravage était très bien représenté. Et à côté de ça, Long, de façon très sérieuse, avait réuni une section de sept œuvres attribuées, où il présentait ce couronnement d'épines de la collection Cecconi à Prato. Aujourd'hui, pardon, la collection Cecconi était à Florence, mais depuis il était acheté par une banque de Prato, donc attribué à Caravage. Également le Saint-François de Crémone, idem pour la flagellation de Vienne, qu'il considérait d'après Caravage. Et évidemment, quelques copies d'après les œuvres sur du maître et le propos pour montrer le rayonnement caravagesque dans l'Europe du XVIIe siècle, il arrive à présenter ce chef-d'œuvre de Velázquez du musée d'Orléans ou encore Diane et les nymphes de Vermeer à l'Aix. Donc effectivement, tout avait été tracé en quelque sorte. Il y avait les grands peintres caravagesques, Borgiani, Gentileschi, etc. Donc à partir de cette expérience, d'autres expositions en Europe et aux États-Unis ont été consacrées à Caravage et aux peintres caravagesques. Il suffit de mentionner celle de Cleveland de 1971, Caravage and His Followers, organisée par Richard Speer, qui montre des œuvres de l'artiste, mais également des œuvres de ses collaborateurs. Revenons vers nous, et il faut citer la mémorable exposition présentée à Paris au Grand Palais en 1983, que malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de voir, intitulée « La peinture napolitaine de Caravaggio à Luca Giordano », où, comme les musées de Naples étaient fermés à cause du tremblement de terre, ce terrible tremblement de terre de 1980, donc il y avait effectivement à Paris, au Grand Palais, la flagellation musée de Capodimonte, ainsi d'autres chefs-d'œuvre de la peinture napolitaine. Sinon, à mes connaissances, en France, il n'y a jamais eu une exposition consacrée à Caravaggio et son contexte. Bien sûr, il y a eu l'exposition Seicento, qui était consacrée au XVIIe siècle, dans les collections françaises. Mais comme vous savez, Caravaggio en France, il n'est pas si présent que ça, même s'il y a des chefs-d'œuvre. Et pour reprendre une expression de Philippe d'Agen, je fais un peu d'égo-histoire. Une parenthèse personnelle, revenons à l'Italie, cette fois-ci non pas des années 50 de l'après-guerre, des années 80, c'était au moment où j'étais étudiant en histoire de l'art, mais il faut dire que ces années 80, c'était une sorte de l'Italie, on avait l'impression qu'on vivait une nouvelle renaissance. Vous voyez, c'est un pays qui tombe dans les abîmes et après il se reprend. Donc, dans les années 80, on avait vraiment un sentiment de joie. Le pays sortait des années de plomb et de la sordide histoire liée aux brigades rouges. L'université se portait plutôt pas mal, les grandes institutions muséales aussi. Et Naples, la ville dans laquelle j'avais fait mes études, aussi sortait de ce tremblement de terre terrible qui, pendant quelques années, avait fermé les musées, les églises, etc. Donc vraiment, c'était des moments d'espoir, mais espoir couronné par une série de manifestations. et une manifestation extraordinaire, surtout pour un étudiant en histoire de l'art, était la très belle exposition présentée au musée de Capodimonte entre le mois de février et le mois d'avril, donc pendant l'année universitaire, ça c'est très important, de 1985, intitulée Caravage et son temps, dont la directrice, on n'utilise pas le mot commissaire parce qu'elle apparaît vraiment sous la direction de, parce qu'évidemment les commissaires étaient plutôt les conservateurs du musée. C'est une exposition organisée conjointement par le musée de Capodimonte et le Metropolitan de New York. Je ne vous parlerai pas de l'étape new-yorkaise parce que je ne l'ai pas vue et je n'ai même pas le catalogue. Donc ce fut ma première rencontre avec Caravage et les peintres caravagesques, même si en ville le souvenir de Caravage était très important. Et cette expo aussi présentait 44 œuvres attribuées au maître. Évidemment, des œuvres difficiles qu'aujourd'hui personne, je pense, considère comme œuvre de Caravaggio, comme ces natures mortes horribles des musées américains, ou celle-ci moins horrible, mais qui est conservée à la Galleria Borghese. Pardon, j'ai oublié le B. Et surtout, ce qui était fascinant, c'est qu'à l'exposition, on avait des chefs-d'œuvre de l'artiste, tels le garçon avec un panier de fruits. À côté, on avait ces horreurs du musée d'art forte qu'on attribuait à Caravage. Donc même un non-spécialiste, l'œil est quand même très important dans notre discipline. Et puis, il y avait des œuvres, évidemment, découvertes, quoique abîmées, mais qui avaient été restituées à l'artiste dans les dernières années, donc avant l'ouverture de l'exposition, comme les musiciens du Metropolitan provenant de la collection du cardinal Del Monte, et ce tableau emblématique qui à l'époque était dans une collection particulière. Aujourd'hui, vous pouvez l'admirer à la National Gallery de Londres, un tableau difficile sur lequel je reviendrai tout à l'heure, mais aussi d'autres tableaux difficiles comme la Madeleine du musée de Detroit, d'autant plus difficile à comprendre comme œuvre de Caravaggio parce qu'elle était exposée, par exemple celle-ci, était dans la même salle que la Sainte-Catherine Thyssen. Donc effectivement, la comparaison directe était extrêmement négative pour une œuvre comme celle-ci de Detroit. Et puis, voilà, évidemment, on nous donnait comme Caravaggio le couronnement d'épines qui entre-temps avait été acheté. Et c'est la première fois qu'on le voyait en public. C'est ça qui est intéressant, à côté de tableaux qui, nous, en tant qu'étudiants, tout en n'étant pas spécialistes de l'artiste, nous laissaient très perplexes sous les attributions au maître. Donc aussi, une exposition, si elle présente des œuvres certaines et datées, attribuées avec beaucoup de science à l'auteur, à côté d'œuvres plus difficiles, même si on n'est pas spécialiste, on peut comprendre cela. Mais néanmoins, cette exposition avait le grand mérite d'avoir réuni des véritables chefs-d'œuvre, je vous disais 44, et surtout d'avoir permis au public d'admirer pour la première fois le dernier Caravage. Ce tableau, qui évidemment était connu bien avant, a été attribué à Caravaggio uniquement en 1980, grâce à des documents publiés par Ferdinando Bologna et Pacelli, qui étaient les deux spécialistes qui ont travaillé sur le sujet, et que devant des documents d'archives permettent d'attribuer sans équivoque à Caravaggio. Donc, peint juste quelques mois avant sa mort, à l'époque conservée dans le caveau d'une banque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, c'est au même lieu, mais il y a un musée, donc vous pouvez rentrer, le visiter. À l'époque, c'était impossible, donc c'était vraiment la star de l'exposition. Et puis d'autres Caravages, évidemment, dans ces mêmes années, je vous disais, l'université se portait très bien. Un grand maître venait d'être nommé professeur à l'université de Naples. Il s'agissait de Giovanni Previtali, célèbre et déjà célèbre à l'époque pour ses travaux sur Giotto notamment et sur la peinture à Naples du Cinquecento. Mais comme tout grand maître et professeur, Previtali non seulement travaillait sur d'autres périodes, mais il consacrait beaucoup de temps à la didactique. C'est ainsi qu'il nous accompagnait, à visiter la magnifique exposition organisée pourtant par son ennemi historique, Mina Gregori. Parallèlement, il organisait, à côté des visites à l'exposition, une série de séminaires pour les élèves plus avancés sur le sujet. Autour d'une table, il lançait des photos noires et blancs et nous laisser discuter, attribuer pendant des heures, avec une liberté totale, et uniquement à la fin, il nous livrait son point de vue. Et le résultat de ce séminaire sur Caravaggio est un très bel article, malheureusement très peu lu. Il faudrait presque, je dirais, le traduire en français, parce qu'il est très intéressant vraiment, du point de vue méthodologique. C'est une féroce, c'est un féroce compte-rendu de l'exposition de Naples de 85, mais en même temps un tableau, un compte-rendu extrêmement intelligent. Et lui était très gêné parce qu'il dit que c'est une occasion manquée, cette exposition, parce que si on avait présenté comme Caravage ce tableau de collection particulière qui continue maintenant à être présenté par-ci et par-là, pour lui c'est évidemment un tableau d'après Caravage, alors que là il était présenté comme une œuvre du maître, dit c'est tout à fait regrettable qu'on n'ait pas songé à le comparer avec le tableau de Finson du musée des Beaux-Arts de Marseille. Ça c'est effectivement était l'une des lacunes et le côté pas très honnête de l'exposition, surtout pour un sujet comme celui du garçon mordu par un lézard. Ça, c'était la grande occasion ratée de l'exposition. Mina Gregorio aurait sans doute pu avoir le tableau de la Fondazione Longhi. C'est la patronne, elle l'a prêté à Montpellier. Mais à Naples, elle a dit que la Fondation ne l'avait pas prêté. Elle montre uniquement le tableau qui, à l'époque, était en collection privée, aujourd'hui à Londres. Donc, alors là aussi, ça a été une occasion ratée parce qu'on aurait pu enfin voir les deux exemplaires côte à côte. Évidemment, pour Previtali, déjà, le tableau Longhi était difficile. Pour lui, le tableau de Londres est une copie, était. Lui considérait le tableau de Londres une copie d'après un original caravagesque parce que il a passé des heures à nous expliquer qu'il était beaucoup plus léché, beaucoup plus fini, trop presque pour lui, par sorte de hyper-naturalisme que selon lui était absent des tableaux de Caravaggio. Et idem, il avait évidemment rejeté le couronnement d'épines de Prato, sans parler de l'arrache-dent de la Galerie Palatine, qu'il attribue à un peintre qu'il appelait fausseur de Caravaggio. Donc vraiment, c'est un élément, ça a été un moment particulièrement important, et je vous dis, surtout pour ceux qui lisent l'italien, de lire ce très beau compte-rendu dans la revue Prospettiva, revue que lui-même avait fondée. Et évidemment, Gregori, pour répondre à ces attaques, elle fait l'énième exposition Caravaggio en 92, où évidemment le lecteur est perdu dans les dizaines de pages consacrées aux analyses scientifiques de laboratoire. Surtout à l'époque, c'était un peu novateur. Maintenant, nous sommes habitués aux revues Techné, CDRMF, etc. Donc, on est plus préparé à cet aspect. Mais à l'époque, effectivement, le lecteur ne lit pas. Parce qu'un historien de l'art qui prenait ça dans les années 90 ne lisait pas les notices, elles sont illisibles. Chaque œuvre avait à 30 pages pour essayer de faire attribuer et pour essayer de faire rentrer sous le nom de Caravaggio des tableaux douteux. Ce n'est pas le cas de celui de Fort Worth. Évidemment, il y avait des tableaux intéressants et importants présentés à Rome et à Florence pour la première fois, mais il y avait aussi des tableaux que personne, au moins aujourd'hui, attribue à Caravaggio, mais qui étaient présentés tout court comme Caravaggio, parce qu'évidemment, elle vous expliquait les pigments, les couleurs, machin, sur les couleurs de l'artiste. Idem pour le tableau de Detroit, et évidemment, Prato aussi y était, tout y était, comme l'arrache-dent, pour vous montrer que c'est toujours les mêmes tableaux qui passent d'une exposition à l'autre. Plus heureusement, les recherches ou les hasards de la vie ont permis, avec le temps, de faire entrer dans le corpus de Caravage des chefs-d'œuvre sûrs, qui ne posent pas de problème d'attribution, vu la très grande qualité aussi, et comme dans les années 80, chez les jésuites de Dublin, par hasard, après la restauration, on a pu attribuer ce chef-d'œuvre avec l'arrestation du Christ à Caravaggio, et il est rentré depuis dans les collections de la National Gallery de Londres et présenté à Rome en 1995 dans une très belle exposition intitulé Caravaggio et la collection Mattei, parce que ce tableau provenait de la collection romaine Mattei. Malheureusement, si vous allez à Dublin, vous risquez de ne pas le voir parce que le tableau voyage tout le temps. Je suis allé deux fois à Dublin, je l'ai vu à Rome, mais pas à Dublin. Et donc après, parce que c'est ça, les vedettes des musées voyagent un peu trop. Donc Rome 95, Brescia 98 da Caravaggio à Ceruti, Rome et Londres 2001, le génie de Rome, 2004-2005, Caravage, les dernières années, Capodimonte et Londres, Milan et Vienne 2005, Caravaggio et l'Europe, Florence 2010, Caravage et le Caravagesque à Florence, Ottawa, Fort Worth, Caravaggio et les peintres Caravagesques à Rome, Rome 2011, Roma à l'époque de Caravaggio, et venons enfin à Montpellier. Évidemment, je vais passer la parole au commissaire de l'exposition. Ce qui est intéressant, et c'est vous montrer aussi l'importance de 1951. À l'exposition de Montpellier, vous le verrez, ce n'est pas une exposition consacrée à Caravaggio, mais Caravaggio et les peintres, et tout ce que Caravaggio a engendré dans la peinture, non seulement en Italie, mais en Europe. Donc c'est pour ça que l'exposition est d'autant plus exemplaire, parce que ce n'est pas une exposition monographique, mais une exposition l'artiste et son contexte et sa suite. Mais pour la première fois en France, on a réuni 9 tableaux de l'artiste. Et encore une fois, Roberto Longhi a été maître, parce que sous la plupart des tableaux présentés à Montpellier, ont été attribués à l'artiste par Longhi. Lecce Homo de Gênes, publié comme Caravage en 1954 par Roberto Longhi, le Saint-François de Crémone en 1943, la Flagellation de Rouen que Longhi attribue à Caravage en 1951, la Salomé de la National Gallery de Londres que Longhi attribue à Caravage en 1959, et le Renouement de Saint-Pierre du Met, attribué d'abord par Longhi à Manfredi en 1952, puis après la restauration, comme quoi l'œil est quand même important, après sa restauration, définitivement attribué à Caravage par Longhi en 1964. Donc vous voyez, les 9 tableaux, évidemment, je pense aucun tableau difficile, hormis peut-être le tableau de la Fondazione Longhi, sur lequel on peut se poser des questions, mais accepté, je dirais désormais, sauf paix à son âme, Prévital, qui n'y croyait pas trop, parce que justement, il lui a dit, j'aimerais bien le voir en comparaison avec les autres. Et donc, j'ai déjà parlé beaucoup. Je passe la parole à Michel Hilaire et Axel Emery, qui vont nous parler de cette expérience.